Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint. Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce que sera demain ? Le début ou la fin ? Si personne ne le sait, les écrivains, eux, peuvent imaginer un futur à partir de ce que nous vivons aujourd'hui. Un monde qui s'annonce en tout cas très sombre, si l'on en croit le nouveau roman de notre invité paru sous le titre « Chien 51 » aux éditions Actes Sud. « Chien » comme le surnom que doit endurer le personnage principal, un policier. « 51 » comme le numéro qu'on lui a attribué puisque l'heure est à la déshumanisation. Bonjour Laurent Godet.
Bonjour Catherine.
Votre œuvre littéraire et théâtrale jusqu'ici n'avait pas encore arpenté de façon aussi frontale le territoire des temps à venir. Est-ce que cette envie de vous plonger dans l'écriture de l'anticipation, voire de la dystopie, car force est de constater ici qu'on est loin de l'utopie, vient de ce que la planète vient de traverser et nous avec, à savoir une pandémie qui nous a tous projetés dans l'inconnu ?
Oui, je crois que ça tient beaucoup à ça. Parce que je pense que, alors là, à mon avis, de manière collective, nous tous, cette période de pandémie, de confinement successif, a fonctionné aussi, pour chacun d'entre nous, comme une sorte d'accélérateur de questionnement. Quoi. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre ? On a tous été sidérés. Si on est en train de vivre cela, alors qu'est-ce que ça veut dire de notre demain, de notre avenir, du futur ? Je pense que chacun d'entre nous, dans nos appartements, nos maisons, dans nos vies confinées, on s'est posé ces questions-là, qu'on n'avait peut-être pas le temps de se poser avec une telle acuité auparavant. Et moi, c'est vrai que du coup, cette projection vers demain, c'est devenu un peu plus naturel, ce questionnement-là. Parce que le monde d'aujourd'hui nous invite à nous demander ce qui va se passer demain quand même.
Avec un point de départ très réel, néanmoins, et terrifiant, puisque vous racontez au début de ce roman, Laurent Godet, comment la Grèce, en faillite, est achetée par une entreprise mondiale qui, de fait, privatise le pays et efface toute notion de nationalité. Ça, c'est très concret, parce que la dette grecque, elle a été réelle, elle a existé, n'est-ce pas ?
Oui, c'est le point de départ de mon idée du livre, c'est de repartir de la dette grecque et de me dire et de tordre un petit peu le réel en disant et si j'imaginais que ça ne s'est pas passé comme ça s'est vraiment passé, mais que effectivement la Grèce était allée au bout du précipice, avait totalement déposé le bilan, fait faillite, et que effectivement une grande entreprise comme on en connaît quand même beaucoup aujourd'hui, mondiale, du genre GAFAM, avait dit en fait moi je peux la racheter la Grèce. C'est le point de départ qui ouvre pour moi des questionnements que je trouve intéressants par rapport au monde déjà dans lequel on vit, c'est-à-dire jusqu'où va la privatisation, quelle est la frontière entre monde privé, monde public, service privé. Je crois que c'est des questions là aussi que chacun peut se poser dans sa vie. On sait la difficulté qu'on a maintenant avec les nouveaux outils de travail, de couper, de dire maintenant je suis rentré chez moi, je ne travaille plus. La porosité de ces deux mondes-là, le monde professionnel, le monde privé, et puis ça m'intéresse beaucoup.
Et le cas de la Grèce, évidemment, n'est pas anodin aussi pour le méditerranéen que vous êtes, Laurent Godet.
Oui, alors ça, c'est pas tombé par hasard sur la Grèce, effectivement. D'abord parce qu'il y a cette crise-là qui permettait ce point de départ. Mais aussi, surtout, vous avez raison, c'est d'inviter dans le livre, une géographie qui est la mienne, dans laquelle je me sens bien, à laquelle je tiens beaucoup. Et c'est pas anodin de dire ça, c'est parce que c'est aussi une manière de mettre au cœur du livre ce que moi je suis pas prêt à abandonner pour le monde de demain. C'est-à-dire que si le monde de demain est un monde qui a oublié la Grèce, qu'il a même dévoré en fait, alors je crois que ça m'intéresse plus beaucoup. Ou en tout cas, j'ai pas envie d'aller vers ce monde-là. Donc mettre la Grèce, c'était aussi mettre un objet précieux pour moi dans ce livre et de dire, ça c'est la boussole. Au-delà de ça, il faut pas qu'on aille, quoi. Il faut pas qu'on détruise cette chose-là.
Et l'autre écho qu'on peut voir aussi dans ce début de roman, Chien 51, dans ces scènes de rue, de panique, de gens qui veulent partir en masse de cette Grèce qui va leur être arrachée dans ce grand chaos. Évidemment, ce n'est pas sans nous évoquer ce qui s'est passé en Ukraine. Alors bien sûr, vous étiez très avancé dans l'écriture de ce roman, sans doute à la fin, mais ça vous a frappé d'être rattrapé par une réalité à nos portes que là encore, on n'avait pas anticipée.
Alors très honnêtement, pas l'Ukraine, parce que c'est arrivé sûrement un peu, j'essaie de remettre le calendrier dans mon esprit, mais sûrement
c'est
un peu tard.
C'est arrivé en février.
Ouais, et moi j'étais déjà quand même bien avancé en février. Mais par contre, ces pages-là que vous évoquez, où effectivement les Athéniens et les Grecs, d'une manière générale, sont obligés de fuir la Grèce et essayent de trouver un bateau... J'ai aussi pensé aux scènes qu'on avait vues un peu plus tôt, malheureusement, en Afghanistan. Toutes ces familles, tous ces hommes et ces femmes qui essayaient de trouver une place dans un avion, parce que c'était ça ou la mort, ou en tout cas la répression pour longtemps. Je crois qu'on est malheureusement très habitué maintenant à ces moments où un pays vacille et où des tas de vies se trouvent prises au piège, en fait. Donc, évidemment, ils ont envie de partir, c'est bien naturel. Et ça crée des espèces de mouvements, de panique, de scènes absolument épiques et hallucinantes où des vies sont jetées sur les routes, en fait.
Donc, même dans ce monde imaginaire futur, Laurent Godet, vous gardez en souterrain tous ces thèmes qui vous travaillent et qui traversent votre œuvre depuis longtemps. La question de la migration, la question de la Grèce, ou en tout cas de l'Antiquité dans son ensemble.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai mis la temporalité dans une légère anticipation et pas 200 ans plus tard, parce que j'avais envie que le monde de Chien 51 ne soit pas si lointain d'une autre. Il ressemble, il y a des tas de choses nouvelles, des objets, etc. Mais c'est quand même, en gros, c'est notre monde. On n'est pas avec des soucoupes volantes et c'est pas Star Trek, c'est ça que je veux dire. Donc c'était important pour moi qu'il y ait cette proximité quand même. C'est-à-dire que au fond, je n'ai pas cessé d'interroger aujourd'hui en essayant de réfléchir à comment est-ce que je pouvais construire cette société de demain. C'était très plaisant à faire, mais parce que c'est toujours assez amusant de se dire, tiens, bah, quel genre d'objet je pourrais inventer, quelles sont les coutumes de ce monde, comment elle marche, cette société de demain. Mais au fond, ça m'a sans cesse ramené à des choses qui existent déjà ici, en petit, en pas encore tout à fait développé, en premier signe de quelque chose, mais qui sont là, en fait.
Donc on va en rentrer dans ce nouveau monde que vous inventez, Laurent Godet, puisque après ces scènes inaugurales, on retrouve 30 ans après ce personnage donc, qui s'appelle Zem et qui a dû s'expatrier en partant sur un bateau sur fond de violence et d'explosion, qui n'est pas loin d'ailleurs aussi de nous faire penser à la récente tragédie du port de Beyrouth, soufflé et détruit par le feu. On le retrouve, il a une cinquantaine d'années, dans un lieu indéterminé nommé Magnapol, divisé en trois zones, des très riches aux gens plus aisés jusqu'aux plus démunis, un découpage social et écologique, puisque les très miséreux vivent sous une pluie acide et boueuse, tandis que les autres sont sous un dôme protecteur. A priori, on ne circule pas d'une zone à l'autre, sauf cas de force majeure, et ça va être le cas pour Zem, policier, qui, après la découverte d'un corps éventré, va devoir faire équipe avec une enquêtrice plus gradée d'une autre zone. Donc, après l'anticipation, voici le polar. Là encore, c'est nouveau sous votre plume, Laurent Godet.
Oui, oui, absolument. Et c'était, ça m'a fait un peu trembler du stylo, parce que c'est vrai que c'est impressionnant de s'attaquer à des territoires, d'abord, qui sont nouveaux, et ensuite, pour être parfaitement honnête, que je connais mal en tant que lecteur. C'est-à-dire, je ne suis pas du tout un immense lecteur de SF ou de romans policiers, pas du tout. J'adore ça, en tant que téléspectateur ou spectateur. Donc c'est vrai que c'est des choses que j'appréhendais un peu pour la première fois. Et en même temps, moi j'aime bien venir me frotter à des formes nouvelles. Je trouve que c'est aussi une manière de renouveler son écriture, d'aller se frotter à des objets qu'on n'a pas encore explorés. Et pour parler plus précisément du polar, c'est vrai qu'il y a au cœur même de toute intrigue policière, je pense, la question du suspense, que je trouve vraiment très passionnante. C'est-à-dire que ce n'est pas si simple à faire. Moi, je suis très, très admiratif des gens qui arrivent à construire des histoires où le suspense marche et marche fort. Cette tension qui est créée chez celui qui lit ou qui regarde, d'attente, d'appréhension, de vouloir en savoir plus et tout, c'est quelque chose qui est très compliqué à faire naître. C'est un vrai art de faire ça. Donc, j'avais envie de voir comment est-ce qu'on construit une histoire qu'on distille par petits morceaux au lecteur pour essayer de créer cette attente.
Est-ce que vous diriez, Laurent Godet, qu'avec ces nouveaux genres littéraires, anticipation et polar, qui sont assujettis à des codes assez précis, vous avez trouvé une nouvelle écriture, un nouveau plaisir ?
Un nouveau plaisir, certainement, des nouvelles souffrances aussi, parce que c'est pas que du plaisir. J'ai sué. Après, sur l'écriture, je suis bien incapable de vous dire, j'arrive pas à savoir. Moi, je suis pas le mieux placé pour savoir si ça a changé ou pas mon écriture. Le point de départ, c'était de me dire, je sais que je me suis dit à un moment donné, il faut pas essayer de jouer à celui qui sait écrire des romans policiers ou aux spécialistes de la science-fiction. Il faut plutôt prendre ces deux choses-là et essayer de les amener sur ton territoire à toi. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire sans cesse, de ramener ça dans mes terres et de l'écrire à ma manière. Je connais pas les codes, vous l'avez dit, il y en a, et je sais que je les connais pas tous, mais plutôt de me dire comment moi je raconterais ces choses-là. Je pense qu'il y a dans Chien 51 une façon, par exemple, les personnages ont une façon de parler, de s'exprimer, de se livrer dans des parfois de longs monologues, qui est vraiment une sorte de signature que j'ai. Je ne fais pas exprès, c'est comme ça, j'aime bien laisser la parole, ça vient sûrement du théâtre. Donc on va retrouver un certain nombre de choses qui sont des caractéristiques assez profondes de ma manière, moi, d'approcher l'écriture. Et je préfère ça, en fait.
Donc une enquête policière sur les traces d'un assassin, d'une puis deux personnes, toutes les deux éventrées. Peut-être en raison d'une greffe d'immortalité qu'elle possédait et qu'on leur aurait volée. On en reparlera un peu plus tard dans cet entretien. Enquête menée par Zem et Salia Malberg, une jeune femme qui, elle, incarne le Nouveau Monde, puisqu'elle est née à Maniapol. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous ou avec ce duo Zem-Salia, qu'est-ce que vous mettez en place, Laurent Godet ?
La question de la mémoire, ça m'intéressait de faire se rencontrer deux personnages qui n'étaient pas du tout au même endroit de la mémoire. Vous l'avez dit, Salia Malberg, elle est jeune. Donc, pour une raison strictement générationnelle, elle n'a pas connu tout le monde d'avant. Et donc, elle est née dans cette société. Elle ne la questionne pas particulièrement. Elle est fluide dans cette société. Elle en connaît toutes les règles. Et elle y est plutôt bien. Elle a des ambitions, comme tout le monde. Ce n'est pas un crime. Mais elle va rencontrer ce vieux bonhomme un peu bizarre qui a plus d'épaisseur au sens où il a plus de mystère, il est plus inaccessible et elle sent, et c'est là son intelligence à elle, elle sent que finalement de le rencontrer va peut-être lui permettre à elle d'ouvrir des perspectives sur ce monde justement et de commencer à questionner ce monde, ce qu'elle n'avait jusqu'à présent pas fait. Et de son côté à lui, la rencontre avec Salia Malberg peut-être amène un petit peu d'élan. C'est un personnage fatigué, Zem Sparak. Vous l'avez dit, il a une cinquantaine d'années, il a traversé des choses dures depuis son départ de la Grèce, mais même ensuite dans sa vie à Maniapol. C'est un personnage totalement usé, en fait. Et la rencontre avec Salia Malberg vient quand même remettre au premier plan son désir de faire ce métier-là, de trouver la vérité. C'est un personnage qui se refuse à ce monde sur plein d'aspects, mais il y a quelque chose qu'il n'a pas lâché, c'est l'obstination avec laquelle il a envie de connaître la vérité. Même s'il ne le dira jamais comme ça, mais au fait, il continue à travailler jusqu'au bout parce qu'il veut savoir. Il veut que ceux qui ont tué et éventré ces deux victimes payent, en fait.
Et elle aussi, c'est ce qu'elle veut. Et paradoxalement, de ces différences va naître une étincelle. Et peut-être une étincelle d'espoir dans ce monde froid et cynique. Que
oui,
vous décrivez.
Et qu'on peut, alors sans divulgâcher, qu'on peut nommer, qu'on peut définir cette étincelle comme d'abord une rencontre, ce qui n'est jamais anodin. C'est quand même les plus beaux cadeaux de la vie, que ce soit dans le monde d'aujourd'hui. Et à mon avis, ça sera pareil dans le monde de demain, c'est la rencontre, avec tout l'inattendu, la découverte que ça représente. Et puis, c'est une rencontre qui se met assez vite sous le signe de la transmission. C'est-à-dire que cette mémoire qui est en Zem Sparak, et qui lui pèse d'une certaine manière, se souvenir de tout ça, il va trouver un moyen de le transmettre à cette femme jeune femme, qui elle n'en avait pas idée, mais qui tout d'un coup le prend comme un enrichissement.
Thank you.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI avec aujourd'hui Laurent Godet, dont le nouveau roman vient de paraître sous le titre Chien 51 aux éditions Actes Sud. On l'a dit, une fiction d'anticipation qui nous projette dans un monde encore plus noir, plus injuste que celui d'aujourd'hui, divisé en zones, bâti sur le profit, la tromperie, et qui a fait table rase du passé auquel on n'a plus accès que par sa propre mémoire, ou mieux des projections mentales, d'archives, d'époques, stimulées par des pilules magiques. Et c'est ce à quoi est réduit Zem, le personnage principal du roman, qui, pour oublier ce nouveau monde, se jette dans les souvenirs virtuels. Mais de quoi souffre-t-il le plus, selon vous, Laurent Godet? Est-ce que c'est l'exil de son pays natal, la Grèce, qui n'existe plus, ou la nostalgie d'une époque disparue?
Je pense que c'est d'être le fils d'un monde qui n'existe plus. J'avais entendu une fois à la radio des gens qui parlaient de leur pays, la Yougoslavie, en disant que ça faisait très très bizarre d'être né dans un pays qui n'existe plus. Et ils le disaient sans aucune nostalgie politique, simplement de dire... Moi, je suis né à un endroit et aujourd'hui, je regarde une carte et j'essaie de le dire à mes enfants, c'est plus comme ça, ça n'existe plus. Donc, j'ai repensé un peu à ça, à cette idée que, donc, il souffre de ça. Et puis, il souffre d'une autre chose aussi. C'est là aussi, en essayant de pas trop en dire, mais dans cette jeunesse grecque, au moment où la société Goltex a racheté la Grèce, il y avait une forte opposition contre ce rachat, notamment de la jeunesse qui a manifesté, qui s'est battue, il y avait des barricades, il y avait des émeutes, et Sparak a participé à ce mouvement-là. Il était contre et il a essayé de se battre. Il a perdu avec tous ses camarades, mais il y a une trahison de sa part à lui dans ces années-là. Et je pense aussi que ce qu'il fait souffrir, même 30 ans plus tard, quand il est un vieux flic fatigué à Maniapol, c'est le souvenir de cette trahison. C'est-à-dire qu'il porte aussi en lui une faute, et ça, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que ça me ramène à mes terres de la tragédie et de la mythologie, puisque je pars comme présupposé de tout texte tragique que le héros tragique doit être fautif. C'est plus intéressant. S'il n'est pas fautif, on a juste de la compassion à son endroit. On se dit « oh, le pauvre ou la pauvre ». S'il est fautif, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'on peut à la fois dire « oh, le pauvre » et en même temps être un peu terrifié par lui. Sparak, il a cette double chose en lui. C'est qu'on le plaint parce qu'il a une vie d'exil, mais en même temps, il y a cette faute qui le salit, en fait, et qui continue à le torturer, probablement.
À la fois bourreau et victime.
Absolument.
En exergue, vous écrivez, Laurent Godet, à celles et ceux qui n'ont pas oublié Delphes. À quoi faites-vous référence ici?
Quand on est à Delphes, j'ai la chance d'y aller, c'est magnifique. C'est-à-dire que le site naturel est très beau, très sauvage et assez impressionnant parce qu'assez serré. C'est une petite vallée assez serrée. Et les constructions humaines qui ont été posées à cet endroit-là, les temples, le théâtre, tout ça... ont l'air de prendre en compte ce qui les entoure. C'est-à-dire que il y a une évidence que la construction peut être même rajoutée à la beauté de la nature et qu'au fond, on est bien peu de choses et qu'il faut juste poser ces pierres-là ici parce que ça sera dans le sens du vent, il y aura une belle inclination de la pente. Et donc, c'est le plus beau de l'humanité au sens où dans ces moments-là, on voit que l'homme est capable de comprendre la nécessité du mariage avec ce qui l'entoure, avec les forces naturelles. Et puis, il y a quelque chose de tellurique à Delphes aussi qui fait de ce lieu un lieu mystérieux. Et donc, voilà, je voulais que ceux et celles qui n'ont pas oublié d'elle, c'est ceux et celles qui, pour moi, n'ont pas oublié qu'il ne s'agit pas du tout de revenir au temps des Amish, comme dirait l'autre, mais simplement d'avoir l'intelligence de saisir l'équilibre qui nous entoure et de se loger dans cet équilibre plutôt que d'imposer notre appétit de propriété ou de modification du monde. On l'a beaucoup modifié, mais au fond, les Grecs, quand ils posaient un temple, ils l'écoutaient, le monde, avant tout. Il y a 2 ans, il y a eu des incendies énormes dans le Péloponnèse, qui ont fortement menacé le site d'Olympie. Cet été, ça a brûlé autour de Delphes, justement. Donc, on pourrait dire, c'est des accidents naturels, mais sauf qu'on sait que la main de l'homme n'y est pas pour rien. Il ne s'agit pas d'accuser un tel ou un tel, mais tous ces incendies d'été qui deviennent quasiment systématiques et qui menacent de plus en plus la beauté du monde, on sait qu'on y est pour quelque chose. Donc c'est une autre destruction possible de nos chers sites antiques qu'il faut conserver et qui est tout aussi inquiétante. Elle est moins idéologique, mais il va falloir qu'on trouve un moyen de l'arrêter, parce que sinon chaque été, on va voir disparaître de vieilles pierres, et finalement la destruction c'est la même. Hein. Une fois que c'est fini, on pourra reconstruire à l'identique, mais c'est pas ça qui est beau. Ce qui est beau, c'est de respecter le lieu, bien sûr.
Et là encore, Laurent Godet, cette alerte écologique, elle était présente déjà dans votre œuvre. On se souvient évidemment de votre roman « Ouragan », qui revenait sur le cyclone Katrina en Nouvelle-Orléans, et puis aussi ce qui s'est passé en Haïti, avec votre roman « Danser les ombres », qui là encore faisait écho à la destruction de la nature, mais cette destruction de la nature, elle vient bien aussi de la première destruction de l'homme sur la nature.
Oui, tout à fait. Ces moments de contraction, d'irruption, de grands dangers sont le signe d'une lente érosion ou destruction de quelque chose. Donc, bien sûr, oui.
Est-ce que, comme Zem, vous avez cette nostalgie du passé, même si, en l'occurrence, notre présent est toujours un beau présent? Mais est-ce que...
Ah oui, mais je crois que ça n'a rien à voir, en fait. Enfin, oui. Non, moi, je suis comme Zem, mais pas pour les mêmes raisons. Je ne suis pas à me dire que c'était mieux hier et que la civilisation était merveilleuse, la société parfaite. Ça n'a jamais été le cas. C'est toujours... Je fais partie d'une génération, la génération SIDA, la génération chômage. Donc, on ne va pas me chanter que c'était mieux quand j'avais 20 ans. Ce n'est pas tout à fait vrai. Les difficultés sont différentes. Par contre, d'un point de vue plus personnel... J'ai un caractère nostalgique, et c'est vrai que plus on avance dans la vie, plus on se rend compte que quand on parle de tel chanteur, ça ne dit plus grand-chose aux gens qui nous entourent. Quand on va dans une rue qu'on connaît depuis 30 ans et qu'on dit « Ah oui, là, il y avait un café que j'aimais bien », il n'existe plus, et il est devenu un bar à champagne ou je ne sais quoi. Donc ce genre de moment où on mesure en fait, le temps qui passe, et on se dit « Mais en fait, ces petits mondes-là qui sont petits, mais en fait, ils ont disparu. Je dois être un des seuls à me souvenir que là, il y avait un tel, que j'ai pris un café dans cet endroit. Je me souviens même un peu de la conversation qu'on avait eue avec cette personne qui d'ailleurs elle-même est morte depuis. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On est de plus en plus, quand on avance dans la vie, on est de plus en plus habité par des mondes qui sont perdus. Il faut faire avec. Alors, c'est à la fois un réconfort, moi, je trouve, de pouvoir repenser à tout ça. Je pense notamment au moment de la promenade. C'est des moments que j'aime bien, moi, de réévoquer mes lieux perdus. Mais en même temps, c'est vrai que ça crée un petit pincement, quoi.
Justement, comme il est nostalgique, c'est par une méthode artificielle, une pilule et un casque virtuel que Zem s'échappe de son réel, même si au final, en effet, il se retrouve dans son passé face à cette trahison qui l'a détruit. C'est ce que fait l'art aussi, paradoxalement, nous sortir de notre monde tout en nous tendant le miroir de notre vie, Laurent Godet.
Oui, vous avez raison. Je n'avais pas pensé, mais l'art en général, en tout cas la littérature, c'est sûr, c'est vrai. C'est vrai, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours bouleversé, c'est que ouvrir un livre, c'est se mettre en présence d'une voix du passé. Il y a cet aspect-là dans la littérature, vous avez raison.
Mais pas seulement les morts, parce que moi, quand j'ouvre votre roman « Chien 51 », Laurent Godet, je me dis « je vais sortir de mon quotidien, je vais aller dans un autre monde ».
Ah oui.
Doublement imaginaire, puisque vous l'avez inventé et puisqu'il est futur. Et en fait, tout ce que je lis me renvoie à notre vie d'aujourd'hui. C'est le paradoxe. Hein.
Oui, c'est le paradoxe. Je pense que c'est quand même un peu le principe. Enfin, je crois que c'est sûrement ce qui intéresse beaucoup les auteurs de science-fiction ou de romans d'anticipation ou la question de la dystopie. C'est qu'au fond, ça n'est finalement rien d'autre qu'une manière d'interroger sans cesse notre aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs souvent que quand on va du côté de la dystopie, on finit toujours par proposer une sorte de lecture politique du monde. Parce qu'en fait, c'est... parce qu'on a visé, pointé tous les dysfonctionnements politiques de notre monde, qu'on se demande, mais alors si on va vraiment vers ça et qu'on imagine une extension de ce principe, qu'est-ce que ça donnerait? Dans Chien 51, pour le dire vraiment très, très brièvement, quelques éléments de liste, on peut dire que c'est un monde du futur assez terrible, de la surveillance, etc. Mais souvenez-vous... du crédit social chinois, des manifestations de Hong Kong avec réprimées au moyen de l'outil de la reconnaissance faciale. Effectivement, alors les pluies acides de Chien 51, ça fait quand même fortement écho à ce qu'on a vu cet été, c'est-à-dire des moments d'une violence inouïe, très courts, mais qui détruisent beaucoup. Donc moi, je n'ai pas l'impression d'être allé chercher bien loin, à dire vrai. J'ai l'impression que dans le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup de petits endroits de science-fiction.
Alors, on ne peut pas en dire trop, évidemment, sur cette enquête policière, si ce n'est que, par exemple, elle soulève l'existence d'une greffe d'immortalité que les nantis pourraient s'offrir. Décidément, même dans un futur désespérant, l'humanité rêve toujours de vivre plus longtemps, et ce sur fond évidemment de manipulation politique. Là non plus, ça ne change pas beaucoup. Donc finalement, Laurent Godet, même demain, il n'y a pas d'espoir. L'avenir sera sans doute une version pire qu'aujourd'hui.
Non, moi je ne crois pas. je ne crois pas. Je crois qu'on peut. Si vous voulez, je vais vous répondre en tant que citoyen. En tant que citoyen, je ne crois pas. Je crois qu'on ne mesure pas. On est plongé dans en ce moment, dans une période très anxiogène. On nous parle beaucoup de tous les problèmes qui vont venir. Et c'est normal, c'est pour faire réagir et bouger les lignes. Mais on sous-estime peut-être le fait que depuis 10 ans, dans les pensées, dans les mentalités, ça change beaucoup quand même. Et assez vite finalement. Moi je trouve qu'il y a une ouverture assez problème là, et encore, moi je suis un vieux, mais pour les générations plus jeunes, qui est évidente. Donc finalement, on n'est pas si lent à réagir à l'échelle d'une vie, évidemment, mais quand on dézoome un petit peu, je pense que ça les gens qui arrivent maintenant, les gens qui ont 30 ans, 20 ans, 10 ans, et qui auront 20 ans dans 10 ans, ils sont super aigus sur ces questions-là, et ça, du coup, ça peut aller assez vite, je pense. Il n'y a pas de baguette magique, hein, mais il faut aussi quand même dire qu'on a fait du chemin et que ces choses-là existent. Après, c'est vrai que la question de l'espoir, en fait, il faut la déplacer. Je comprends que quand on lit Chien 51, on se dit « Oh là là, si c'est ça l'avenir, c'est sombre ». Mais c'est justement ce que je veux montrer. Si c'est ça l'avenir, effectivement, c'est sombre. Alors n'y allons pas. Donc le fait d'écrire le livre, pour moi, est un geste d'espoir. De dire si, je voudrais vous montrer ce qui est possible. Essayons de ne faire en sorte que Chien 51 ne soit pas l'avenir du genre humain.
Donc vous êtes plutôt optimiste, Laurent Godet ?
Ça dépend des jours, ça dépend des matins. Non, on ne peut pas être optimiste, Béa, non plus, mais moi je crois que c'est l'homme qui a fait une bonne part de tout ça, et l'homme a les moyens de corriger le tir, il faut s'y mettre. La grande difficulté pour moi, c'est l'enjeu que je trouve le plus préoccupant, c'est comment faire pour que ces questions, on va dire environnementales, pour dire de manière globale, ne recoupent pas une lutte des classes. Ça m'inquiète beaucoup. Comment faire pour que ces questions qui concernent absolument tout le monde ne soient pas uniquement l'apanage des riches qui ont les moyens de le faire, et que du coup on se retrouve face à une fracture sociale vis-à-vis de ces questions-là. Et alors on aura raté le coche, parce qu'il faut que tout le monde s'y mette, et voilà.
D'où le choix dans le roman, effectivement, de décloisonner les zones et de faire circuler les gens d'une zone à l'autre.
Oui. C'est toujours les plus pauvres qui font les plus grands efforts, alors que c'est pour eux que c'est le plus difficile. Juste avant le premier confinement, j'ai eu la chance d'aller à Dhaka, la capitale du Bangladesh. Alors là aussi, j'en suis revenu en me disant, mais si Dhaka, c'est l'avenir des grandes mégapoles de la planète, c'est terrifiant. Et les habitants dont je parle là, c'est évidemment pas les plus riches du Bangladesh, c'est les plus pauvres. Les quartiers qui sont au bord de la Buriganga à Dhaka, c'est vertigineux. C'est pas possible que ça soit ça l'avenir du monde. Ça n'est pas possible, c'est la zone 3. Je l'ai vraiment pas inventée, elle est à Dhaka.
Merci beaucoup Laurent Godet d'être venu nous parler de Chien 51, ce roman futuriste avec des airs un peu de Blade Runner, ce roman de Philippe Kadic qui nous pose la question de notre existence aujourd'hui et ce que nous ne voulons pas vivre demain. Un roman qui apparaît aux éditions Actes Sud. Merci beaucoup.
Merci.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.